Donc les 10 commandements, Dieu veut notre bien. Dieu n'est pas la mesure de toutes. Pardon, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Un petit peu en introduction, je dirais quand on, dans toute entreprise, vous avez tous eu le plaisir ou le bonheur de travailler, je l'espère, et dans toute entreprise, il y a ce que l'on appelle un règlement intérieur, n'est-ce pas ? Généralement, on se réfère au règlement intérieur quand il y a des problèmes, des litiges, des choses comme ça. Donc, c'est important que les choses soient écrites. Alors, il y a souvent dans le titre quelque chose qui gêne un peu, c'est le mot commandement. Hein. C'est pas bien dans l'ère du temps, au niveau du 21e siècle, n'est-ce pas ? 10 commandements. Donc, c'est pas très à la mode. Aujourd'hui, on préfère épanouissement personnel, management horizontal. Il faut surtout plus qu'un patron qui dise c'est comme ci, c'est comme ça. On ne doit plus faire comme ça. Depuis longtemps, il est devenu, bien sûr, interdit d'interdire. Et les contraintes sont de plus en plus mal perçues, tant dans l'éducation des enfants que dans la vie en société. On a fini avec des enfants à l'école, mais je pense que ceux qui sont aujourd'hui en plein dedans doivent savoir ce que c'est que la notion d'autorité, de règlement, d'enseignement à propos des enfants. Cependant, il ne faut pas être sortir de Saint-Cyr ou être un grand génie pour s'apercevoir qu'il peut y avoir des conséquences graves à cette manière de penser. L'homme n'est pas la mesure de toute chose. On y reviendra un jour. On entend tous parler de ce mot aujourd'hui, le postmodernisme et la chrétienté. Le postmodernisme, c'est quoi ? C'est la relativité, pas celle d'Einstein. La tienne, Pierre, tu as ta vérité. Brigitte, tu as ta vérité. Toi, tu as ta vérité. Tu es heureux, je suis heureux. C'est ça la pensée du monde aujourd'hui. Et vous imaginez bien que ça va à 180 degrés de ce que peut nous dire la parole de Dieu. Alors, les 4 premiers que nous avons vus avec David, ils nous mettent face à nos exigences devant Dieu. Référence, où se trouvent les 10 commandements ? Exode 20. Le premier verset est intéressant. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. » Dieu, il a rarement prononcé des paroles directement comme ça. Il s'adresse en direct. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. » Les 4 premiers que nous avons vus avec David, c'est concernent nos relations par rapport à notre Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je passe un peu plus loin. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du repos. » Et voilà, le quatrième. Un peu plus fort. Notre relation avec Dieu. Maintenant, la suite va nous engager sur ma relation avec mon prochain. Le premier. Honore ton père et ta mère. Exode 20. Afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Dans Deutéronome 5,16, il est dit légèrement autrement. « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a donné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore. Qu'est-ce que ça veut dire honorer ? rendre honneur. Si on veut être honnête avec soi-même, c'est pas facile, les relations parents-enfants, qu'elles soient maintenant, qu'elles étaient passées ou qu'elles soient dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que parce que on n'a pas des... Comment dire ? L'entente n'a jamais été parfaite avec nos parents, que nous ne devons pas les honorer. C'est ce qu'il faut retenir. Un commandement de Dieu demeure pour nous sans condition, quelles que soient les difficultés de chacun que nous ayons pu rencontrer, que la vie nous a donné. Honore ton père et honore ta mère. C'est un des rares versets qui est assorti d'une conséquence, hein, afin que tu sois heureux, positif, un encouragement. Fais-le et tu seras heureux. En nous révélant sa volonté à notre égard, c'est bien notre bonté, notre bonheur, pardon, même que Dieu poursuit. Dieu sait ce qu'il nous demande. Honore ton père et ta mère. Nous leur devons la vie. Rien que pour ce fait-là, nous devons honorer notre père et notre mère. Et en toute simplicité, en toute humilité, je vous l'accorde, c'est pas simple. Le sixième commandement, celui-ci, il coule de source, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, ça fait partie, je dirais, des commandements qui sont dans l'inconscient naturel de l'homme. C'est ce que Dieu a déposé dans la conscience innée de chaque être humain, logiquement, sauf peut-être pour certains, tu ne commettras pas de meurtre. La Bible nous apprend que Dieu est l'auteur de la vie. Au sein de sa création, l'homme occupe une place particulière de choix, puisque tu, je, nous avons été le seul être à avoir été créé à son image, à l'image de Dieu. C'est un avantage, c'est une responsabilité. À cause de ce statut particulier de l'être humain, il n'est pas possible de toucher à un homme, à une femme bien sûr, sans en même temps toucher à Dieu, parce que nous sommes ses créatures. Genèse 9, 5, 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Donc on a une position particulière, quelconque tue un être humain, agresse notre Dieu, et il lui sera demandé des comptes. Car si l'homme a le pouvoir, et c'est même une partie de notre mission, de procréer, de se multiplier et de remplir la terre, nous dit Genèse 1, 27, 28, il ne faut pas oublier que nous agissons par mandat. Je ne peux pas m'empêcher, quand on voit un nouveau-né, quand on va à la maternité, quand on voit un nouvel enfant, quelque part, Dieu nous a cédé cette possibilité, nous a délégué, nous a fait co-créateur avec lui. Mais sans lui, rien n'est possible. Alors, Dieu n'est jamais absent lorsque l'homme transmet la vie. L'homme n'est jamais absent lorsque l'homme transmet la vie. Genèse 4, 1. La vie est toujours une grâce. Psaume 127, 3. La vie est toujours une grâce. Alors, pour ce sixième commandement, si maintenant on va un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à Jésus ? Comme on va le voir un peu plus loin, Jésus, il va toujours au cœur du commandement, voire il le synthétise, voire il le concentre, voire il le résume, on va le voir. Comme toujours, Jésus donc va au cœur du commandement pour en révéler l'esprit et les exigences profondes. C'est important, j'avais noté, je ne le lirai pas, mais vous pourrez le lire. Concernant la vie, le respect de la vie, dans Matthieu 5, 21-22, quand il est parlé de colère par rapport à des frères ou des sœurs, n'est-ce pas ? Décidément, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour notre pardon et de son Esprit Saint pour vivre saintement, jour après jour. Dans la première épître de Jean, les versets 11 à 18, Jean nous indique quel est le remède pour le meurtre. C'est quoi le remède absolu, d'après vous ? Eh bien, le remède absolu, c'est l'amour. C'est l'amour qui ne se contente pas de belles paroles, mais qui se prolonge de jour après jour, de jour en jour, sans arrêt, par des actes concrets. On va lire, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 3, c'est versets 11 à 18. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas qu'à un, il était du mal. Il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. C'est des paroles qui sont sèches, raides, hein, quand même. Verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède des biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? On fait une petite métaphore par rapport au message à l'introduction de notre frère. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vais vite. Exode 20-14. Bon. On va pas s'étendre sur le sujet sans faire de plaisanterie. Dans un certain sens, nous n'avons pas besoin de comprendre quelquefois les raisons pour lesquelles Dieu nous commande ou nous interdit telle ou telle chose. On peut dire « Dieu veut notre bien ». Si Dieu nous condamne l'adultère, c'est qu'il veut notre bien. Trop souvent, nos demandes d'explication cachent en vérité notre refus d'obéir de tout notre cœur à Dieu. Certains ont pensé que Dieu prenait plaisir à nous interdire le bonheur avec des commandements tels que celui-ci. Il n'y a rien de plus faux. En fait, la Bible dit clairement que Dieu est l'auteur de notre sexualité. Le mariage monogame avec engagement de fidélité à son conjoint est la volonté générale de Dieu pour l'être humain. Genèse 2, 24. Clairement, le règlement intérieur dit « L'adultère est un péché. Aujourd'hui, voilà. L'adultère se définissant, il y en a plusieurs, hein, bien sûr, comme une relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées dans un cadre biblique. On vient cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Jésus va un peu plus loin. Et nous les hommes, c'est pas simple, hein, des versets comme ça, on prend ça en pleine figure, n'est-ce pas ? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Et on sait très bien que le péché, la faute, vient du cœur, de l'intérieur. C'est jamais la chose qui est péché proprement dit. Ça vient toujours de l'intérieur, ça vient toujours du cœur. Je m'arrête. Le règlement intérieur dit, niette, c'est interdit. Le huitième commandement, voilà un commandement qui est un peu plus naturel, hein, c'est comme un peu, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de vol. Par définition, celui qui vole son prochain prend quelque chose qui ne lui appartient pas, et il dépossède celui-ci de son bien. Généralement, ça va à l'encontre de la morale commune, hein, le vol. Et chacun sent bien naturellement au fond de lui-même que, ma foi... Mais le danger est, je ne sais pas, vous avez tous fait des bêtises quand vous êtes gamin, hein. Moi je revois encore l'étal de l'épicière avec plein de petits bonbons qui sont là et tout, et en douce je me vois prendre le truc et le mettre dans ma poche. Et quelque part, une fois qu'on a franchi le Rubicon, qu'on est passé de l'autre côté, c'est facile, on est tenté de recommencer une deuxième fois, surtout... Si on ne s'est pas fait taper ça, un jour ou l'autre, ça arrive. Hein. Voilà. Alors, son prochain. On vole son prochain quand on lui prend son bien, quand on lui fait violence, lorsqu'on ne lui donne pas le salaire qui mérite son travail, qu'on lui donne trop tard, lorsqu'on lui refuse le minimum vital auquel tout être humain a droit. Rappelons-nous, hein, ça va vous rappeler quelque chose, en Israël, un homme possédant un champ était tenu de laisser volontairement quelques gerbes à glaner au moment de la moisson. Idem pour la vigne. Je ne vais pas les lire, mais je vous donne quelques références. Lévitique 19, 9, 10 et Deutéronome 24, 19 et 22. Ainsi, ceux qui étaient très pauvres ne sombraient pas dans la misère. Grâce à leur travail, ils avaient au moins de quoi survivre sans avoir à mendier. Ça vous rappelle pas une histoire? Celle qui allait glaner au fond du champ? Une certaine? Ruth. Allons un petit peu plus loin. On peut voler son prochain, on peut voler Dieu. Ça peut paraître audacieux de dire on va voler Dieu, pourtant c'est Dieu lui-même qui nous y amène par le prophète Malachi. On ne va pas le lire, mais vous le lirez. C'est Malachi 3, les versets 5 à 15. Dès lors, Dieu n'hésite pas à considérer comme vol ou tromperie lorsqu'on lui refuse ce qu'il a demandé, les choses auxquelles il a droit. Celui à qui nous devons tout. Méditons ce passage. Quelque part, quand je vole ce qui est à mon prochain, et comme ce que j'ai, vous avez, m'est transmis par Dieu, d'une certaine manière, on pique ce qui est dans la poche de Dieu. Le neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Et donc c'est le Exode 20, 16. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur, et celui qui nous intéresse, le faux témoin qui profère des mensonges. Notons que tous ces commandements sont imbriqués les uns dans les autres. Est-il possible d'en transgresser un sans transgresser les autres? pour Dieu le vol, le meurtre, le faux témoignage, eh bien, sont tous à mettre dans le même sac. Je vole pas, mais je suis un faux témoin. Alors, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne vers ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, les versets 1 Pierre, les vers, chapitre 3, les versets 10 à 12. Le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise. Tout ce que l'on va dire maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit quand le péché vient de l'intérieur. Tout vient de notre cœur, n'est-ce pas, qui est corrompu d'origine. La convoitise survient lorsque nous envions ce qui n'est pas, qui est ni à nous, ni pour nous. L'homme ou la femme de notre prochain, par exemple, mais aussi ses biens, son caractère. Ben, il est doué, celui-là. Il a réussi. Il a beaucoup plus de choses que moi tous les jours. Les petits détails, tac, 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 tac. C'est comme la convoitise, c'est comme les caries, vous savez. Tout doucement, ça vient, tac, ça rentre, ça creuse un trou, ça creuse. On n'y fait pas attention. Et il y a un moment, ça fait mal. Alors j'envie donc ce qu'a mon prochain, ses biens, son caractère, sa réputation, sa réussite, sa chance, sa santé, son intelligence, sa manière de vivre, son argent, son don. Il est doué pour la musique. Et moi, rien, tout le monde, quand il chante, il a une voix extraordinaire, merveilleuse, et moi c'est une casserole. C'est des détails, mais c'est souvent des détails, si on n'y prête pas attention, qui peuvent, jour après jour, doucement, pardonnez-moi cette expression triviale, nous pourrir la vie. Si nous devons désobéir à l'un des commandements précédents pour satisfaire notre désir, par exemple voler, mentir, commettre l'adultère, c'est qu'une simple envie s'est transformée en convoitise. Et la convoitise est un péché. C'est comme ça, règlement intérieur. La convoitise est un péché. Mais parce qu'elle est souvent invisible, la petite carie, il arrive que les gens que nous lui accordions n'ont pas assez d'importance. Pourtant, Jésus nous apprend que la source du mal est d'abord invisible, à l'intérieur de nous-mêmes. On va lire Marc 7, 14 à 23. Ensuite, c'est ça. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. C'est pas de la faute du voisin, ni de parce qu'il y a ça, ou de la voiture qui est belle, que il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Rien. Ça vous met une claque, ça vous remet d'équerre. Ça. C'est pas la peine d'aller dire c'est moi. C'est tout ce que j'ai là dans mon cœur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être, de lutter, de se nourrir, de revenir au règlement intérieur. Sinon, tout ce qui vient là, pas terrible. On a vraiment besoin du Seigneur pour nous purifier. Le mal n'est pas dans la matière de ce qu'il a autour de nous. Il n'est pas dans les actes. Il est dans ce qui sort à l'origine, la convoitise, ce qui vient de nos cœurs. Jésus nous dit avec force que l'on peut paraître juste aux yeux des hommes et être pas terrible aux yeux de Dieu. Matthieu 23, 25, 28. C'est juste avant. Hein. Matthieu 23. Et les versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes des pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. L'intérieur, le cœur. Jésus résume merveilleusement bien ses 10 commandements. C'est 2 versets en conclusion. Alors, 22, 34, 39. Voilà. Verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On rejoint l'amour, je vous ai parlé d'amour tout à l'heure. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je dirais que Jésus a résumé par ce commandement les 4 premiers commandements que l'Éternel a gravés sur ses tables de la loi quand il les a donnés à Moïse. Les 4 premiers sont résumés dans ce verset « Tu aimeras ton Dieu ». de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et les quelques versets suivants vont résumer les versets de 6 à 10. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces deux versets, frères et sœurs, vont nous aider à suivre le règlement intérieur, à aimer notre Dieu et à éviter de tomber dans le péché, de la tentation, du vol, de toutes ces choses-là au quotidien. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce rappel de ce règlement intérieur. Seigneur, nous savons ô combien il est important, ô combien de ces commandements sont même encore écrits dans notre code civil, dans notre pays, Seigneur, même si certains volent en éclats. Seigneur, nous voulons aussi proclamer que l'homme a besoin d'un référentiel, Seigneur, qui est toi, qui est ton Dieu, et que c'est pas forcément ce qu'il décide, ce vers quoi son cœur l'attire, qui fait force de loi pour son bien. Seigneur, merci encore pour ce rappel, aide-nous à méditer ces commandements et surtout ces deux commandements donnés par Jésus, Seigneur, que nous venons de lire. Seigneur, sois encore béni, garde-nous encore pendant cette journée et cette semaine, dans le bon nom de ton Fils. Amen.